Le journal Abia Tupoukou.
Merci de vous joindre à nous. Les titres de cette édition, les enseignants de Bouta en province orientale dans la rue depuis ce matin. Ils réclament 3 mois de salaire et le départ du comptable d'État qui se promène à Kisangani avec près de 84 millions de francs congolais destinés à la paye de tous les fonctionnaires du Bazuélé. À Bounia, la police ainsi que la MONUC réussissent à empêcher une évasion à la prison centrale de cette ville. Des centaines de prisonniers incarcérés dans cette maison pénitentiaire ont tenté de quitter l'enclos de la prison après avoir réussi à casser la porte principale. La mine souterraine de la Rouachi à Lubumbashi est devenue depuis ce week-end une mine à ciel ouvert. Décision de son exploitant, l'entreprise Chemaf, après les éboulements signalés les semaines dernières. Voilà tout pour les titres. Les détails, c'est tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour et ouvrons tout de suite ce journal à la province orientale. Les enseignants sont descendus dans la rue ce matin à Bouta. Ces enseignants, tout réseau confondu, réclament 3 mois de salaire non payé. Ils exigent également le départ du comptable d'État qui achemine les salaires de tous les fonctionnaires du Bazuélé, estimés à plus de 6000 personnes, parmi lesquelles les enseignants. La marche s'est soldée par le dépôt d'un mémo auprès du commissaire de district du Bazuélé. Des précisions avec Aliana Alipanagama.
Les activités scolaires ont été paralysées ce lundi dans toutes les écoles primaires et secondaires de la cité des Bouta. Les enseignants en colère ont marché dans les rues. Pendant la manifestation, ils scandent des chansons réclamant leur salaire des juillet, août et septembre 2006. Ils exigent surtout le départ du comptable d'État chargé de l'éducation dans le Bazuélé. Ce dernier continue à séjourner à Kisangani avec dans sa mallette 84 millions de francs congolais. Selon le chef de division provinciale des finances, ce retard est dû non seulement au mauvais état de santé de ce comptable, mais aussi à la suspension des vols d'avion entre Kisangani, Beni et Bouta, l'unique voie de transport des fonds puisque Bouta ne dispose pas d'une banque pour le transfert d'argent. Richard Bossagué ajoute en outre que tout est fin prêt pour le départ du comptable avec les 3 mois de salaire réclamés par les enseignants. Pendant ce temps à Bouta, les enseignants signent et persistent sans argent. Pas de reprise des cours. Aliane Alipanagama, Kisangani, Radio Okapi.
Restons en province orientale où le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population en RDC a séjourné cette semaine. Objectif, s'enquérir de l'évolution des activités de l'UNFPA, en faveur des personnes victimes de violences sexuelles. Koulibaly Sidiki se félicite des actions menées par son institution pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles dans la province orientale, mais il déplore l'impunité installée qui pour lui favorise la croissance du fléau. Dorcas Kankou.
C'est en vertu de la prochaine planification 2006-2007 que le représentant du FUNIAP en RDC a entrepris cette visite d'évaluation. Pour lui, son institution continue à enregistrer de plus en plus de cas de violences sexuelles. Les taux de ces violences sexuelles est passé de 23% l'année dernière à 33% cette année 2006 en cours. Contrairement aux années antérieures, les auteurs de ces actes sont plus des civils que des militaires. À la base de cette croissance, l'impunité qui a élu domicile dans les chefs des autorités civiles et militaires, ainsi que le règlement à l'amiable de conflits de violences sexuelles, tel que l'explique Koulibaly Sidiki du FUNIAP au micro d'Anselme Massoua.
Maintenant, tout un chacun se permet de violer parce qu'il sait, bon, je viole, il n'y a personne qui veut rien faire, je n'irai pas en justice, je ne serai pas puni. Il y a une responsabilité de la famille aussi, parce qu'on préfère aller régler à l'amiable, avoir une chèvre, avoir un peu d'argent, et on laisse tomber. Donc tout ceci fait que même si les auteurs, on les connaît, leur punition dépend du système judiciaire, qu'il soit, si vous voulez, opérationnel, et d'autre part, que la communauté comprennent que le règlement à l'amiable n'aide pas à résoudre le problème des violences sexuelles.
Cela étant, ajoute Koulibaly Sidiki, le Fonds des Nations Unies pour la population continue à multiplier les efforts pour la lutte contre les violences sexuelles. Pour cette année, tous les hauts cadres de la 9e région militaire ainsi que les militaires en brassage ont été sensibilisés sur l'importance de combattre ces fléaux. D'autres actions sont en train d'être entreprises à Kisangani et à l'intérieur de la province pour sensibiliser les communautés et les chefs coutumiers. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Capi.
En santé, une journée supplémentaire est ajoutée à la campagne de vaccination contre la poliomyélite au Kasaï occidental. Cette décision a été prise hier par le comité provincial des coordinations de ces activités. Selon le docteur Faustin Bouchabou, coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination, cette prolongation a été décidée en vue de vacciner le plus d'enfants. Ceci afin d'éradiquer la poliomyélite car les cas récents de la poliovirus sauvage ont été enregistrés dans le territoire de Chikapa à ajouté. Pour Dr Bouchabou, il est important de s'assurer que tous les enfants sont vaccinés. Il est au micro de Pierrot et la Mégie.
Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas encore atteints parce que les 3 jours ne semblent pas être suffisants. Il faut que nous puissions passer de maison en maison pour voir si vraiment tous les enfants ont été atteints. Parce que les objectifs que nous nous sommes assignés pour cette campagne, c'est d'atteindre tous les enfants. Si nous ajoutons le 3e jour, c'est pour voir si réellement tous les enfants ont été atteints et vérifier réellement les résultats par rapport au nombre d'enfants qui ne sont pas atteints. L'évaluation jusqu'à présent, elle est encore partielle. Aujourd'hui, nous sommes à 33%. Nous attendions pour toute la province 1 549 000 enfants et jusqu'à présent, nous sommes à 465 389 enfants que nous avons vaccinés.
C'était le docteur Bouchabou qui est coordonnateur des PEV dans la province du Kasaï occidental. Il est 12h06 à Kinshasa, 13h06 à Bounia, c'est dans l'Ituri. Tentative d'évasion cette nuit dans la prison centrale de Bounia. Des centaines de prisonniers incarcérés dans cette maison pénitentiaire ont tenté de quitter l'enclos de la prison après avoir réussi à casser la porte principale. La situation a été maîtrisée aux environs de 1h du matin grâce à l'intervention de la police d'intervention rapide appuyée par le contingent marocain de la MONUC. Pour l'instant, l'ordre est rétabli. Tous les prisonniers sont gardés dans l'enclos de la prison dépourvu de sa porte principale. Le récit des faits avec Basile Bakoumbani.
Selon des sources policières, c'est aux environs de minuit qu'une cinquantaine de prisonniers ont réussi à casser la grille principale de la prison. Les uns bagages en main, d'autres sur la tête, gagnaient la porte des sorties tout en défiant tous celui qui osait les retenir. Pour arrêter ces mouvements, les éléments des gardes de la police d'intervention rapide ont usé des tirs d'armes en l'air. Appuyés par les éléments du contingent marocain de la MONUC, ils ont réussi à ramener tout le monde à l'intérieur de la prison. Pour le moment, ils ont établi une ceinture de sécurité aux alentours de la prison en attendant qu'une solution soit trouvée pour réhabiliter la grille cassée. L'unique qui était restée, les autres ayant été cassés lors de précédentes tentatives d'évasion. Entre-temps, les prisonniers n'ont pas encore dit leur dernier mot. Soulignons que cette tentative d'évasion intervient quelques heures avant le début des audiences publiques pour lesquelles la cour d'appel de Kisangani siège en chambre foraine à Bounia depuis ce lundi. Bounia, Basile Bakoumbane, Radio Okapi.
Direction Sud Kivu, précisément à Louago, en territoire de Kabaré. C'est pour signaler en passant l'enlèvement de 2 jeunes filles du village de Karamba. Les combattants hutu-rwandais sont pointés du doigt. Selon les autorités locales, cela s'est passé au cours d'une attaque survenue sur le village de Karamba dans la nuit de jeudi à vendredi. Au cours de l'attaque, 5 filles avaient été enlevées, mais 3 d'entre elles avaient pu s'échapper des mains de leurs ravisseurs. Plusieurs biens, bêtes et ustensiles domestiques ont aussi été emportés vers la forêt de Kanyonga, repère habituel des assaillants selon les autorités locales. Nous vous le disions en titre, la mine souterraine de la Rouachi à Lubumbashi est devenue depuis ce week-end une mine à ciel ouvert. Objectif, réduire les cas d'accidents et des éboulements. Les responsables de l'entreprise Chemaf, l'une des entreprises qui exploite la mine de Kalukuluku, justifient cette décision par les derniers éboulements enregistrés dans cette mine. Il s'agira toujours, selon ses responsables, d'assurer un contrôle sérieux sur l'exploitation de cette mine. Sur place à la Rouachi, Jean Gandou.
Pour combattre et réduire les cas d'accidents dus essentiellement aux éboulements, l'entreprise Chemaf procède au minage et à la mécanisation de la mine de l'étoile. Celle-ci reçoit plus d'un millier de creuseurs reconnus et clandestins qui sont à la recherche de produits miniers, principalement les thérésolites et les cobalt. D'après Kuguru Mopi, directeur de mine à l'entreprise Chemaf, depuis la mécanisation, la mine de l'étoile connaît moins d'accidents. Le dynamitage effectué évite ainsi aux creuseurs d'aller dans les mines souterraines où ils sont exposés aux éboulements. L'entreprise Mars compte continuer cette pratique pour décourager les clandestins qui pénètrent dans cette carrière pour y extraire le minerai. Avec le dynamitage et la mécanisation, Chemaf voudrait avoir une même mise et un contrôle effectif sur toutes les activités enregistrées dans la mine de l'étoile. Notons qu'il y a une semaine, plusieurs personnes sont mortes à cause des éboulements dans les mines des carrières de la Roissy. De la mine de l'étoile, Jean Gandou, Radio Capi.
Restons dans le Katanga, mais dans un tout autre registre cette fois-ci. Un engin non explosé inquiète les habitants du quartier Kataki 1 à Kalemi, au nord-est du Katanga. L'ONG danoise de déminage Danchurch Aid vient de placer un panneau interdisant l'accès de la population à cette zone dangereuse. Le chef de quartier trouve cette mesure insuffisante et craint qu'un feu de brousse n'enclenche une explosion. Il défend Kitenge pour les détails.
Selon Mme Pamela de l'ONG Danchurch Aid, l'engin qui fait peur aux habitants est une mine non explosée découverte en août dernier dans le quartier Kataki 1. La même source indique que le déminage de cet engin dans un quartier populaire demande beaucoup de précautions. La responsable de la section de déminage informe attendre le retour d'une équipe de démineurs partis dans le territoire de Niouzou. Madame Pamela.
Si on néglige les règles, nous prendrons les risques aussi quand même. Ça va peut-être poser un danger pour les démineurs qui vont faire le travail. Et ça ne bénéficie rien. Il y a autre chose. On a fait l'animation. On a expliqué plusieurs fois à la population que la population doit essayer à éviter cet endroit et pas ramasser l'engin et pas toucher l'engin et parler avec les enfants pour éviter cet endroit.
Les populations de quartier Kataki 1 redoutent qu'un feu de brousse vienne déclencher la mine et causer la mort d'hommes. L'engin enfoui dans le sol se trouve dans un plateau surplombant le quartier. À cet effet, l'inquiétude de la population grandit à cause d'un autre engin qui a explosé et coûté en août dernier la vie d'un garçon de 12 ans dans le même quartier. Pour l'ONG dans Tchetch Aid, Kalemi constitue encore une zone dangereuse à cause de la présence des engins non explosés. Les zones les plus exposées sont les quartiers d'Af et Kamkolobondo au bord du lac Tanganyika. De Kalemi, il défonce Kitenge Maïboué, Radio Okapi.
En Mbujimayi au Kasaï oriental, des agents écartés ont été réhabilités dans leur fonction à la division des mines. Ces agents ont été mis de côté depuis plus de 3 ans. Le directeur de province explique cette réhabilitation par le fait que ces fonctionnaires étaient recrutés sur base d'un arrêté du ministère des Mines. Mais le nouveau chef de division des mines s'interroge comment ces fonctionnaires seront rémunérés. Esther Dalafina pour les détails.
Ils sont au total 30 fonctionnaires de l'État qui ont été réhabilités par la division des mines. Selon le chef de division, Sylvain Omandjela, il s'agit des agents qui avaient été recrutés par l'ancien chef de division, aujourd'hui suspendu de toutes ses fonctions par le gouverneur de province. Il lui était reproché un recrutement clanique, la mauvaise gestion des ressources humaines, mais aussi le non-respect des instructions du ministère qui interdisait tout nouveau recrutement. Sylvain Omandjela a déclaré qu'il a appliqué les directives du directeur de province, le principal responsable de l'administration provinciale qui, dans sa correspondance datant du 16 septembre dernier, lui demande de réhabiliter ses fonctionnaires. Cependant, il se demande comment ces agents seront payés après leur affectation dans les différents services des mines du Kasaï oriental. Moutonge Mayand, directeur de province, estime que la division peut les utiliser pour éviter le chômage. Cependant, il décline la responsabilité de leur prise en charge par la province. La structure organique de la division qui compte 37 agents devient pléthorique avec l'arrivée de cette nouvelle vague. Mbujimayi, Esther Dalafina, Radio Okapi.
Retour dans la capitale avec le début ce lundi à l'Assemblée nationale des travaux en commission. Constituée depuis le week-end dernier, ces commissions ont pour mission d'examiner les dossiers des députés en vue de la validation des mandats. La prochaine plénière est prévue pour le 2 octobre prochain. Parlons des médias à présent avec d'abord l'inauguration d'une maison de presse à Mbandaka. C'est une première dans la province de l'Équateur. Cette inauguration a été réalisée par la MONUC avec un financement de 7 000 $ américains. L'ouverture de cette maison a eu lieu le week-end dernier. Son existence va contribuer à l'amélioration des conditions de travail des journalistes de l'Équateur. Les détails avec Askien Zigbia Tayoro.
Un ordinateur, un groupe électrogène, une machine photocopieuse, la connexion Internet font partie de la dotation remise à l'Union nationale de la presse du Congo de l'Équateur pour équiper cette maison. Ceci grâce au financement de la MONUC qui s'inscrit dans son projet à impact rapide. L'ouverture de cette maison de presse a été saluée par les journalistes de l'Équateur car depuis belle lurette, ces professionnels des médias ne travaillent pas toujours dans de bonnes conditions. Il leur manque le matériel minimum pour la bonne réalisation de l'information. Selon le président de l'UNPC Équateur, un comité de gestion va être mis en place pour s'occuper du fonctionnement de ce centre. En plus, les journalistes ont une année pour surfer gratuitement sur Internet installé dans ce centre. Entre-temps, les organes de la presse écrite doivent y imprimer aussi gratuitement leurs journaux pendant 3 mois. Après cela, le centre devra s'autofinancer pour assurer, par exemple, la paye de la facture d'abonnement à Internet. Le gouverneur intérimaire des provinces, Ernest Bokula et M. Delacroix Bakonarivo, chef de bureau de MONUC Mbandaka, ont exhorté les journalistes à utiliser ce centre dans le but de donner des informations objectives, des informations qui doivent contribuer à la réussite du processus électoral. De Mbandaka à Skenzig Betayero, Radio Okapi.
Et puis à Kindu, le patron de la maison radio et télé Kin Malebo s'oppose à la suspension de la succursale de cette maison de presse par la Haute Autorité des médias. La représentation provinciale de cet organe de régulation des médias, la HAM, a suspendu pour 7 jours cette maison de presse pour n'avoir pas déposé à son office les actes juridiques sur son organigramme. Gongo Luowo, le patron de la maison, déclare que le motif et la procédure de la suspension de cette chaîne audiovisuelle à Kindu ne sont pas conformes. Il a été en téléphone par Sadala Chabani.
La radio-télévision Kin Malebo, qui sont les branches audiovisuelles de la société Kin Media que j'ai créée et que je préside, fonctionne à Kinshasa sans entrave, là où se trouve la présidence de la Haute Autorité des médias. Kindu n'est qu'une succursale de la société. La première des exigences est qu'elle démontre qu'elle a officiellement demandé quoi que ce soit à la radio-télévision Kindu Maniema. De deux, l'article 59 qui organise la HAM dans notre pays demande qu'on dépose à la HAM un certain nombre de pièces. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, ils sont nombreux ici à Kinshasa, il n'a pas été dit que quelqu'un prendrait une décision de suspendre pendant 7 jours. Mais les gens de la HAM Kindu ne m'ont jamais écrit pour demander quoi que ce soit. Personne ne pourra démontrer avoir écrit. Et nous fonctionnons à Kinshasa. Et pourquoi on ne fonctionnerait pas à Kindu?
Fin de ce journal et merci de l'avoir suivi.